J'aimerais partager quelque chose vraiment pour vous encourager, pour vous bénir. Depuis des semaines, alors que je savais que j'allais partager pour le dimanche de Pâques, c'est comme si le Seigneur me disait, tu vas prêcher là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui vont être énormément aidés. Je dirais même qu'il y a des gens dont la vie sera changée suite à ce qu'on va partager. Voilà. Jean Calvin, ce célèbre enseignant de la parole de Dieu, lorsqu'il partageait la parole de Dieu, il avait l'habitude d'utiliser l'expression « tailler le pain de l'Écriture » pour que les gens puissent bien être nourris par la parole. Hein. Et j'ai l'habitude de dire oui, mais du pain complet. Il faut donner du pain complet, il faut prêcher toute la parole de Dieu. Et semaine, c'est une semaine un petit peu spéciale, avec bien sûr la Pâque, et c'est une semaine où les dates de notre calendrier correspondent à peu près à la Pâque juive. Vous savez que c'est pas tous les ans comme cela, mais la vraie date de la Pâque, bien sûr, c'est la date de la Pâque juive, la Pessah, pour bien prononcer l'hébreu, hein. La date de la Pâque juive, cette fête constitue donc la célébration de la Pessah et de la fête des azimes, c'est la fête des pains sans levain. Alors, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, parle de la Pâque, mais parle pas directement de la Pâque, mais plutôt de certaines conséquences, pas toutes les conséquences bien sûr, mais de certaines conséquences suite à ce qui s'est passé à Pâques, à Golgotha. Et j'ai fait cette réflexion-là dans un groupe de maison. J'aurais aimé entendre prêcher sur de telles choses lorsque j'étais jeune chrétien. Je vous le dis tout simplement, j'aurais gagné en efficacité des années dans ma vie chrétienne. Parce qu'on fait parfois avec ce qu'on entend. Moi, voilà, au début, j'ai fait avec ce que j'entendais, là où j'étais. Hein, voilà. Et j'aurais aimé entendre ce qu'on va partager. Je vous encourage à prendre des notes. Et ce matin, c'est très facile pour prendre des notes. Parce que vous allez faire des ronds. Alléluia. Voilà. Hein? Alors déjà, je vous ai mis ça sur l'image. Un petit mot simplement sur le chiffre 7. Le chiffre 7 dans la Bible, vous savez, il fait partie de ce qu'on appelle les chiffres parfaits. Le chiffre parfait et complet. Il apparaît plus de 600 fois dans la Bible, visiblement, et il apparaît des multitudes de fois en code, les fameux codes secrets de la Bible. Hein? Et ce chiffre 7 montre la perfection et la plénitude de Dieu et la perfection et la plénitude de l'œuvre de Dieu. Voilà. Hein. Et bien sûr, il montre aussi par conséquence la paix, le repos et la joie parfaite que nous trouvons alors que nous sommes au sein de la pleine bénédiction divine. Je vous ai mis quelques exemples du chiffre 7, par exemple. Dieu se repose le septième jour, les semaines font 7 jours, les 7 assemblées de l'Apocalypse, qui constitue un résumé prophétique de toute l'histoire de l'Église, les 7 épis que voient le Pharaon et Joseph dans la Genèse, les 7 étoiles de l'Apocalypse, les 7 serviteurs, les 7 diacres que l'Église primitive nomme à Jérusalem, le jubilé qui se fait au bout de 49 ans, 7 fois 7, hein, cette fameuse année de repos, le pardon, quand Dieu nous dit de pardonner 7 fois 70 fois, hein, ça fait beaucoup, et puis les 7 paroles de Jésus à la croix, etc. Et je vous dis ça parce que on va parler de 7 couvertures, de 7 couvertures parfaites pour une protection parfaite, un repos parfait et une joie parfaite en Christ. 7 couvertures parfaites par rapport au monde des ténèbres. Ces 7 couvertures, elles sont toutes les conséquences. Parmi d'autres conséquences, bien sûr, elles sont toutes des conséquences de ce qui s'est passé à Pâques, de ce qui s'est passé à Golgotha. Alors, chaque couverture mériterait tout un enseignement durant un véritable séminaire. Mais nous allons faire simple, d'accord ? Hein ? La foi ne croit pas que Dieu va le faire. La foi croit que Dieu l'a déjà fait et que c'est à moi d'y croire pour oser le vivre, l'appliquer dans ma vie. Et ça va avec ce que je vais partager. Certainement, dans ce que je vais partager, il y a des choses que tu auras du mal d'accepter parce que tu vis le contraire. Et je veux te dire une chose. Il y a des moments dans nos vies, il faut bousculer, broyer, briser notre conscience malade, mal enseignée, pour remettre les pensées de Dieu et pour que notre pensée soit en bon état. Vous avez le droit de dire Alléluia. Jésus enseignait ses disciples à ne pas avoir peur du monde des ténèbres. Il les encourageait à avancer courageusement dans la foi et aller de victoire en victoire. On connaît bien ce passage dans Luc 10-19 où Jésus dit « Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. » Voilà. Ok. Hein, Jésus donne autorité à ses disciples. Il dit « Sur les esprits immondes pour les chasser. » Et j'ai toujours été assez étonné par et émerveillé par cette réflexion des 70 disciples qui reviennent vers Jésus avec joie et qui disent « Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. » Ils savaient qu'ils régnaient et qu'ils régnaient avec le Christ. Ok, donc on va commencer et on va voir cette couverture. Alors, première couverture, la couverture du sang. Alors, si tu crois en Jésus et si tu crois à ce qu'il a accompli pour toi personnellement, à Pâques, à Golgotha, tu es sous le sang du Christ et tu es couvert par le sang du Christ. J'ai mis un passage biblique. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lorsque Dieu a présenté pour propitiatoire, pour couvercle, pour couverture, par la foi en son sang. C'est le mot grec hilasterion qui correspond à l'hébreu kaporet, qui veut dire c'était le couvercle du de l'arche, hein, et là où on répandait le sang. Donc un couvercle par la foi en son sang, un couvercle, une couverture. Et puis je vous ai mis ce fameux passage dans Hébreux 9 où il est dit. Alors oui, c'est pas Hébreux 9 12. Je crois que je me suis trompé. Ça doit être Hébreux 9 10 et 12. Alors non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son c'est Hébreux 9, 12, pardon. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, Christ est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. À Pâques, il y a eu un seul sacrifice, fait une fois pour toutes. Lorsque nous prenons la scène, nous prendrons la scène tout à l'heure, nous le faisons en mémoire d'eux. C'est pas un nouveau sacrifice. Le Christ ne se resacrifie pas tous les dimanches, ou à tous les cultes, ou à toutes les messes. Hein, il a été sacrifié une fois pour toutes. Alléluia. Hein. Et j'aimerais dire ceci. Si tu crois en Jésus, tu es sous le sang. Tu es toujours sous le sang. Toujours sous le sang du Christ. Ne te remets pas sans cesse, se remettre encore sans cesse sous le sang. Ça, c'est de la superstition. Personnellement, j'ai fait la connaissance il y a quelques années d'une famille. C'est un témoignage aberrant, ça m'a tellement attristé. Je les ai encore rencontrés il y a quelques temps dans un magasin d'ailleurs. Chaque matin et chaque soir, la maman chassait les démons de leurs enfants adolescents qui avaient pu pénétrer dans leurs enfants durant la journée. Et le lendemain matin, elle prenait tous ses enfants et elle rechassait les démons des enfants qui auraient pénétré durant la nuit chez leurs enfants. Voilà, elle les remettait sous le sang de Jésus. Ça, c'est du déséquilibre. C'est du déséquilibre mental, spirituel et psychologique. C'est du déséquilibre. Pourquoi ? Parce que tu es sous le sang. Et si tu as donné ta vie à Jésus, si tu viens à Jésus, tu es toujours sous le sang. Il y a une paix, un repos et une foi conquérante sous le sang du Christ. Il y a parfois des gens qui ont peur, en tant que chrétiens, d'aller dans une maison hantée pour la libérer. Ils ont peur d'affronter des réunions spirituelles, etc. En disant, oh ben j'ai peur, je suis pas. T'as peur de quoi ? T'as peur de quoi ? Tu es sous le sang. Oh oui, mais frère, je vais me mettre sous le sang. Mais t'as pas à te mettre sous le sang. T'es en Jésus, tu crois en Jésus, tu es sous le sang et tu n'es pas dans la peur, dans la superstition. Tu fais pas de signe de croix pour t'éviter des choses. Tu ne te mets pas sous le sang pour éviter ces choses. Tu es sous le sang du Christ dans une paix et une foi conquérante. Regarde la parole de Dieu. Regarde la parole de Dieu. Reviens toujours à la parole de Dieu. Les disciples dans l'église primitive ne se mettaient pas sans cesse sous le sang de Jésus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es en Christ, les démons peuvent pas rentrer. Ils peuvent sortir, s'il y en a. Parce que des chrétiens peuvent parfois avoir besoin de délivrance. Ça, c'est autre chose. Mais ils peuvent pas rentrer. Ils peuvent pas rentrer. Pourquoi? Parce que tu es sous le sang. Cette simple couverture-là peut suffire à ton bonheur. Ok? Bon. Mais on va mettre une deuxième couverture. Ok. Vous aimez bien vous blottir sous les couvertures? Alors là, je vais vous en donner 7 de couvertures. D'accord? Ok. Alors, couverture suivante. Bon, j'appuie dessus. Bon. Ok, c'est bien, merci. Alors, la couverture en Christ, être en Christ, constitue le thème central, la grande vérité du Nouveau Testament. Les épîtres de Paul nous parlent sans cesse que nous sommes en Christ, que nous sommes dans le Christ. Simplement, dans les 6 chapitres de l'épître aux Hébreux, la fameuse épître qui nous propulse dans les lieux célestes. Simplement, dans l'épître aux Éphésiens, il est fait mention 40 fois d'être en Christ ou d'avoir Christ en soi. Mais pour une seule mention de Christ en nous, nous lisons 10 fois que nous sommes en Christ. Je vous ai mis parmi tant d'autres des passages là. 1 Corinthiens 3, il est dit « Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, justice et sainteté et rédemption. » L'apôtre Pierre aussi, il dit « Paix ». Vous, paix soit à vous tous qui êtes en Christ. Si tu crois en Jésus, si tu crois à ce qu'il a fait pour toi à la croix, à Pâques, à Golgotha, si tu crois en Jésus, tu es en Christ. Tu rentres pas, tu sors pas. Tu es en Christ. Voilà. Ok. Et puis ce fameux passage d'Éphésiens 2 où il est dit, Dieu nous a vivifiés ensemble avec le Christ, en Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Il nous a ressuscités ensemble. Il s'en est passé des choses à Pâques. Hein. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, de sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Je vous ai mis aussi un passage de l'Épître aux Gaulois. Il est dit, car nous tous qui avons été baptisés pour Christ, nous avons revêtu Christ. En Christ, tu es complètement protégé. Je prends souvent cette image. Vous voyez, par exemple, admettons ça, c'est la main de Jésus. En Jésus, Dieu il me prend et en Christ, je suis complètement gardé, complètement protégé. Jésus m'a sorti de la mort, il m'a vivifié, il m'a ressuscité et il m'a mis dans les lieux célestes. En Christ, je suis assis dans les lieux célestes. Regardez le petit bonhomme que je vous ai mis, il est assis et il lit les promesses de Dieu dans la Bible. Il n'est pas beau ce petit bonhomme ? Hein, il est assis et il règne. Si tu es en Christ, tu es assis dans les lieux célestes. Tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour, nous dit Dieu. Tu es complètement protégé. En Christ, tu règnes et Dieu te mène toujours de triomphe en triomphe. En Christ, tu règnes, assis dans les lieux célestes. Alléluia. Un des meilleurs moyens de grandir dans la maturité en Christ consiste à continuellement se rappeler que nous sommes en Christ, que nous sommes assis dans les lieux célestes et que nous régnons en Christ. Alléluia. Tu es en Christ. Et si tu es en Christ, le diable ne peut pas faire n'importe quoi. Les démons peuvent pas rentrer. Tu règnes. Ils peuvent sortir. Si Dieu, s'il y en a, ils peuvent sortir. Tu peux avoir besoin d'être libéré. Ça, c'est autre chose. Mais tu es protégé. Deux couvertures formidables. Tu es en Christ. Alléluia. On continue? Allez. Ça va? Vous suivez jusqu'à maintenant? Ok. Troisième couverture, allez, troisième diapo, comme ça on va, voilà, super. La couverture juridique et officielle de la justification. Alors ça, c'est extraordinaire. Je vous ai mis deux passages que j'appelle passages à scandale. Colossiens 1, il est dit, il vous a maintenant réconcilié dans le corps de sa chair par la mort pour vous présenter saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui. Si du moins vous demeurez ferme dans la foi, fondée et ferme, bien sûr, si tu restes dans la foi en Christ, si tu crois en Christ, hein, et ne vous laissez pas détourner de l'espérance de l'évangile. Et Hébreux 10 dit ceci, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés. Alors là, il ne parle pas de la sanctification pratique quotidienne au jour le jour, où nous sommes toujours tous en train de progresser et d'avancer. Nous allons de gloire en gloire, de triomphe en triomphe, de bénédiction en bénédiction, et nous progressons. Mais là, il est parlé d'une sanctification officielle. La Bible appelle les chrétiens des saints. Et nous ne sommes pas des saints, parfois on n'est pas, On n'est pas parfait parfois, hein. Parfois on a eu des petits soucis, hein. Mais officiellement devant Dieu, Dieu nous déclare saints. Et il est dit, nous avons été sanctifiés comment ? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Comme je le dis souvent, je crois qu'on a du mal d'être équilibré et d'être en paix, d'être détendu dans la vie chrétienne, si ça, on ne l'a pas intégré. Officiellement, juridiquement parlant, tu es déclaré éternellement juste et parfait à perpétuité, à cause, non pas de tes performances personnelles, non pas de tes progrès personnels, mais grâce à une seule offrande, faite une fois pour toutes, à Pâques, l'offrande de la vie du Christ à Golgotha. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'Épître aux Romains dit ceci, « Ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, le Christ, beaucoup se reconstituaient justes. » Pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils sont déclarés justes officiellement, parce que quelqu'un a payé pour eux. Alléluia. Christ est donc donné pour justice à tout croyant. L'apôtre Paul disait, ben là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà, hein. Ok. Bien sûr. Si tu fais n'importe quoi dans ta vie, si tu fais n'importe quoi, ta vie va être impactée et tu devras assumer des conséquences. Tu prends un marteau, tu tapes sur le doigt est éclaté, tu es juste en Christ, mais tu es bête. Hein. Voilà. Et il faudra assumer ta bêtise, il faudra faire un pansement. Ben oui, bien sûr. Voilà, hein. Ok. Tu seras déclaré. Tu devras assumer des conséquences si tu fais n'importe quoi, bien sûr. Tu seras déclaré juridiquement juste devant Dieu. Tu seras pardonné, mais tu auras compliqué ta vie au lieu de régner et de vivre la volonté de Dieu pleinement pour ta vie. Si Dieu te déclare Si Dieu te déclare juridiquement et éternellement juste, irréprochable et irrépréhensible, ben le diable n'a donc aucun droit sur toi. Et il n'a notamment aucun droit sur toi pour pénétrer. Les esprits peuvent pénétrer. Tu es protégé. La couverture. Le diable peut te tenter. Il peut te mentir. Il peut te tromper. Il peut te culpabiliser. Il peut te faire ressentir des impressions. Mais il ne peut entrer. Tu es victorieux et tu règnes en Jésus. Alléluia. Alléluia. Martin Luther, le réformateur Martin Luther, disait que la justification, c'était la doctrine devant laquelle une église se tient debout ou s'écroule. Et je dirais même plus, la justification, c'est une doctrine devant laquelle un chrétien se tient debout et va de triomphe en triomphe ou vit misérablement et s'écroule. Dans le livre de Jérémie, vous savez, il y a des centaines de noms pour Dieu dans la Bible, hein. Voilà, vous avez tous plusieurs noms, moi j'en ai plusieurs, je m'appelle Jean-Marie, André, Lito, etc., etc., bon, voilà, Johanna, ça s'appelle Johanna, Colombe, Lito, Ex-Braya, voilà, ok, hein, voilà, hein, ok, hein. Et un des noms de Dieu, c'est Yahvé Tsidkenu, c'est-à-dire l'éternel, notre justice. C'est Dieu qui est ma justice, c'est pas mes propres performances personnelles. Et c'est le livre d'Ésaïe qui disait que cela, notre justice, c'est un cadeau. Et le livre d'Ésaïe disait, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Dieu te fait un cadeau à Pâques. Il déclare que tu es juste, irrépréhensible et irréprochable juridiquement et que le diable n'a absolument aucune autorité et aucun pouvoir sur toi. Tu peux juste une chose, c'est de ne pas croire à l'évangile, ou d'en croire la moitié, ou d'en croire un petit bout, et puis, au bout du compte, te laisser impressionner quand il te souffle dans les narines. Quand le diable te souffle dans les narines. Voilà. Ok. Ok. Notre justice est un héritage. Vous êtes déjà bien au chaud, sous trois couvertures bien épaisses. Bon, on pourrait arrêter là, mais on va voir la quatrième couverture. Ok. Quatrième couverture. La couverture du Saint-Esprit. Voilà. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait prophétisé par le prophète Ézéchiel, « Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. » Ce qui était rare hein, dans l'Ancien Testament. Certaines personnes avaient l'esprit en eux, comme Moïse, hein, comme David par exemple. Mais la plupart des gens n'avaient pas l'esprit en eux. Hein. Jésus-Christ avait déjà dit à ses disciples concernant le Saint-Esprit, il demeure avec vous, mais il sera en vous. Et je vous ai mis quelques versets, 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6:19. Je ne sais pas si je vous l'ai mis celui-là. Oui, je vous l'ai mis aussi. Voilà. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et puis ce formidable passage pour aller partout dans la gloire de Dieu, 1 Jean 4:4, les 4:4, ça va partout. Et l'apôtre Jean, là, parle des esprits mauvais, des esprits méchants, et il dit, pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, c'est Dieu lui-même, c'est le Dieu Tout-Puissant qui habite en toi. Il est plus puissant et plus grand que tous les mauvais esprits qui sont dans le monde. Les mauvais esprits peuvent sortir, mais ils ne peuvent pas rentrer. Sont en paix dans le repos et triomphent. Soit dans la détente et triomphent de gloire en gloire. Si tu crois en Jésus-Christ et si tu crois en son œuvre à la croix pour toi, tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, tabernacler en toi et reposer sur toi. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Un esprit démoniaque ne peut pas rentrer en toi comme ça parce que tu t'es énervé un petit peu ou parce que tu as mordu ton chien ou parce que tu as noyé ton poisson rouge, n'est-ce pas? Non, mais je sais pourquoi je dis cela. Beaucoup de chrétiens évangéliques, avant, ils avaient peur de rien, ils faisaient n'importe quoi dans leur vie, et puis voilà, hein, ok. Bon, et puis d'un seul coup, ils viennent à Jésus, et puis ils apprennent des choses sur Internet ou ailleurs, ou dans leur tête, ou etc., ou quelqu'un qui leur partage des choses sur le monde spirituel, et le monde spirituel des ténèbres. Et d'un seul coup, ils se mettent à avoir peur et à flipper par rapport au diable. Alors qu'au contraire, ils ont reçu une pleine autorité, qu'ils sont protégés, qu'ils ont couverture sur couverture, et qu'ils ont une autorité de la part de Jésus. Donc, il faut guérir de ça, il faut faire violence à votre conscience malade et oser croire à l'Évangile. Alléluia. Ok, bon. Celui qui est en toi est donc plus puissant que celui qui est dans le monde. Quelle magnifique protection, quelle magnifique couverture si tu es simplement né de nouveau. Si en plus tu es baptisé du Saint-Esprit, alors là tu as même une double couverture. Tu es loin du Saint-Esprit et tu es habité par le Saint-Esprit. Quelle glorieuse protection, quelle glorieuse double couverture. Merci Seigneur pour toutes ces couvertures. Ok, là on est presque dans les édredons là déjà. Hein. Bon, allez, cinquièmement. Alors, celle-ci, on la met, ouais, ok, c'est bon. Alors, la couverture dans les bras du Dieu vivant. Alors, ça je savais que j'allais partager ça depuis des semaines et des semaines. Au moment de Pâques, je vous dis, c'est comme si Dieu me disait, pour Pâques, tu vas partager ça. Et j'avais préparé mon message, puis j'avais mis la couverture dans les bras du Père Céleste. Et puis j'ai enlevé ça, parce que vous allez comprendre pourquoi. La couverture dans les bras du Dieu vivant. Je reconnais là que c'est une couverture un peu spéciale, une couverture pour moi, personnellement, peut-être un peu sentimentale, plus sentimentale que doctrinale, mais doctrinalement et pratiquement, cette couverture est bien réelle. Des dizaines de fois, les Saintes Écritures parlent du bras ou des bras de l'Éternel, des bras de Dieu, du Dieu vivant. Je vous ai mis quelques versets. 1 Jean, 1er épître de Jean. Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes dans les bras du Père Céleste. Et nous lisons dans l'Ancien Testament, Deutéronome 33, le Dieu d'ancienneté est ta demeure. Et au-dessous de toi sont les bras éternels. Il chasse l'ennemi devant toi et il dit détruit. Nous sommes dans les bras du Père Céleste. Si tu es venu à Jésus, si tu crois à ce qui s'est passé au moment de Pâques, à Golgotha, et à l'œuvre que le Christ a fait pour toi, tu es déclaré enfant de Dieu. Et la Bible te dit que tu es dans les bras de Dieu, que tu es dans les bras du Père Céleste. Qu'est-ce que tu veux que le diable fasse? Sinon, il n'y a que toi qui peux écouter des bêtises du diable, des fausses doctrines du diable, que tu les prennes dans ta tête, que tu les prennes par quelqu'un qui te dit n'importe quoi, ou que tu les prennes sur Internet pour quelqu'un qui te prêche n'importe quoi. Reviens à la parole de Dieu. Tu es dans les bras du Père Céleste. Et regardez dans les bras du Dieu vivant. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le diable il passe entre les bras et entre les doigts de Dieu pour venir t'embêter et pénétrer en toi, ça n'existe pas ça. Ça, c'est de la fausse doctrine. C'est de la fausse doctrine. Alléluia. Ok. Alors, regardez ce magnifique verset dans Isaïe 40. « Comme un berger, il paîtra son troupeau, par son bras il rassemblera les agneaux et les portera dans son sein. Il conduira doucement celle qui allait. » Ici, il est parlé de Jésus. Nous sommes dans les bras du Père Céleste, mais nous sommes aussi dans les bras du bon berger. Comme un berger. Alléluia. Nous sommes dans les bras du Christ, dans les bras du Dieu vivant. Regardez ce magnifique verset pris dans le livre d'Osée. Il les a pris sur ses bras, mais ils ne savaient pas que je les guérissais. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les bras de Dieu. Et ils ne font que de pleurer de tristesse, que de pleurer de peur, et qu'ils ne savent pas que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu les bénit, que Dieu les nourrit, et que Dieu prend soin d'eux. Alléluia. Alléluia. Il les a pris sur ses bras, mais ils ne savaient pas que je les guérissais. Nous sommes dans les bras du Père Céleste. Et puis, ce passage d'Ésaïe 66, où je vous ai mis que la fin du passage, il est dit, « Et vous têterez, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Alléluia. Dans ce passage d'Ésaïe 66, Dieu se compare lui-même, non pas à un père, mais à une mère. À une mère qui allaite ses enfants, qui les rassasie de l'abondance de sa gloire, qui les porte sur les bras et les caresse sur ses genoux. Dieu dans la Bible se compare lui-même à un père, bien sûr, à un père céleste, mais aussi parfois à une mère. On sait très bien que le mot « roi » en hébreu est généralement, pas tout le temps, mais généralement féminin. Alléluia. Mais l'idée demeure du Dieu Tout-Puissant qui nous tient dans ses bras éternels, nous porte, nous nourrit, nous cajole et nous protège. L'ennemi ne peut pas passer à travers les bras de Dieu comme cela. Nous sommes choyés et protégés. Quelle belle et chaude couverture que les bras d'amour du Dieu vivant. Amen. Amen. Dans les évangiles, Dieu est comparé à un Père céleste qui nous aime et qui compte même tous nos cheveux et un Père qui nous protège. Personnellement, en tant que Père, par exemple, Johanna, je suis ton papa, je t'ai beaucoup aimé, je t'aime encore. Mais je n'ai jamais compté le nombre de tes cheveux. Je n'ai jamais compté le nombre de cheveux d'un seul de mes enfants. Mais Dieu compte les cheveux à chacun d'entre nous. Et il peut les compter parce qu'il nous regarde de près, parce qu'il nous tient dans ses bras. Alléluia. Ça va, vous suivez? Sixième couverture. Alléluia. 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 Sixième couverture. Voilà, c'est ça. Dans la Bible, la couverture par les anges. Dans la Bible, nous trouvons une expression, ou plutôt un nom, un des très nombreux noms de Dieu, Yahweh Tsebaoth, l'Éternel des armées. Environ 281 fois dans l'Ancien Testament, on trouve cette expression Yahweh Tsebaoth. Ainsi, simplement dans le livre de Jérémie, on trouve ce nom de Dieu 80 fois. Et dans le petit livre du livre d'Agé, le petit livre d'Agé, on trouve cette expression 14 fois. Ce sont des périodes un peu difficiles pour le peuple d'Israël. Et Dieu rappelle à ses noms, je combats avec vous, je combats pour vous, je suis le Yahvé Tsebaoth, je suis l'Éternel des armées. Il y a sur le peuple de Dieu, il y a sur chacun d'entre nous une formidable couverture angélique. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons même l'expression « Seigneur Tsebaoth ». Curios, hein, Seigneur des armées. Voilà, même dans le Nouveau Testament. Les Saintes Écritures nous parlent souvent des myriades d'anges qui combattent dans les cieux et sur la terre. Je vous ai mis le psaume 103 où il est dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir. » Et la Bible nous présente souvent les anges de Dieu, les armées des cieux, les armées angéliques, comme étant là pour servir Dieu en faveur des enfants de Dieu et pour les protéger et pour combattre en leur faveur. On peut citer le psaume 91, même si c'est un psaume messianique qui est appliqué à Jésus, mais appliqué à Jésus dans son humanité. Hein ? Il est dit, « Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure, aucun mal n'approchera de ta tente, car il commandera à ses anges, à ton sujet, de te garder en toutes tes voies. » Nous avons sur nos vies une protection angélique. Et bien sûr, on connaît bien ce passage dans l'Épître aux Hébreux. Ne sont-ils pas tous, les anges, des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Les anges sont là et travaillent et combattent pour nous servir, pour nous protéger. Ceux qui croient en Jésus-Christ et qui croient en l'œuvre que Christ a accomplie pour eux à Golgotha sont au bénéfice d'une formidable protection angélique et d'une formidable aide angélique. D'ailleurs, nous connaissons bien cette formidable réflexion de Jésus à propos des anges qui gardent tous ceux qui croient en lui. D'ailleurs, on en a même tiré l'expression qui n'est pas comme ça dans la Bible, mais qui est tout à fait biblique, « ange gardien ». Je vous ai mis, je crois, le passage de Matthieu 18, où il est dit « Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits qui croient en moi, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges même voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Nous avons tous autour de nous une armée d'anges gardiens délégués par Dieu pour notre protection et pour notre aide. Même le Christ dans son humanité, à Gethsémané, a été encouragé et fortifié par un ange avant d'aller à Golgotha pour porter les péchés et les maladies du monde sur la croix. Je vous ai mis peut-être le passage, là il a dit, un ange du ciel lui apparut, le fortifiant dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Attention, nous ne prions pas les anges, nous ne commandons pas aux anges, mais nous prions Dieu, nous aimons Dieu, nous adorons Dieu et nous sommes émerveillés par lui. Alléluia. Ça va, vous suivez? Ok. Alors ne la mets pas la suivante, Maxime. Ne la mets pas. La septième couverture. Alors, je vous pose la question. C'est quoi la septième couverture? C'est quoi? Mais bien sûr. Allez, vas-y, Maxime. Allez, voilà. La septième couverture, c'est l'Église. L'Église et tout spécialement l'Église locale. Je vous ai mis le verset. Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Assemblée, c'est-à-dire à l'Assemblée locale de Jérusalem, ceux qui étaient sauvés. L'Église, et en particulier sur le terrain pratique, l'Église locale, a autorité sur tout le monde spirituel des ténèbres. Et je suis dans l'Église locale, et tu es dans l'Église locale, et donc tu profites de cette protection et de cette bénédiction-là. En tant que membre de l'Église locale, je suis protégé au sein de cette Église, et j'ai autorité sur toutes les puissances sataniques et sur tous les esprits démoniaques. On connaît bien ce fameux passage d'Éphésiens 3:10, « Afin que la sagesse si diverse, si multicolore, polypoikilos, de Dieu, soit maintenant donnée à connaître aux principautés et autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée, par l'Église. » Attention à la notion de membre. Être membre, ce n'est pas simplement assister à quelques réunions ou à quelques cultes d'une église en visiteur pour se donner bonne conscience. Être membre, c'est vraiment être un disciple du Christ, actif et investi au sein d'une église locale. Je m'investis en action pratique, en prière, en amour, en fidélité, au sein d'une église locale, au sein d'une assemblée de frères et de sœurs devant lesquels je suis redevable. Chaque église locale constitue une véritable couverture spirituelle pour chacun de ses membres. Une couverture constituée par les prières des frères et des sœurs, une couverture constituée par les bénédictions des frères et des sœurs, une couverture constituée par le fait que l'église et que chaque église locale est assise dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toutes les puissances spirituelles de méchanceté et qui, une église qui règne. L'Église locale, par sa position céleste, règne et est une protection, une véritable protection, une formidable protection pour chacun de ses membres. Dès l'Ancien Testament, un magnifique passage dans le livre d'Ésaïe nous prophétisait déjà cela. Je vous ai mis une partie de passage d'Ésaïe 4 où il est dit « Et l'Éternel créera sur chaque demeure de la montagne de Sion. » Sion, c'est l'Église. Hein? « Il créera sur chaque demeure de l'Église et sur ses assemblées une nuée et une fumée de jour et la splendeur d'une flamme de feu la nuit. Car sur toute la gloire, c'est-à-dire sur l'Église et sur les Églises, car sur toute la gloire, il y aura une couverture. » Ah, il est magnifique ce verset. Je me souviens la première fois où j'ai lu ce verset, je n'avais jamais entendu prêcher là-dessus. Je me suis arrêté. Je dis, c'est possible. L'Église est appelée une gloire et sur chaque gloire, sur chaque Église locale, il y a une couverture. Jésus est mort pour ça. Alléluia. Un autre verset que j'aime beaucoup, un verset magnifique et glorieux sur l'Église. L'Église, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Là, l'Église, dans ce passage, c'est l'Église qui est appelée la plénitude. C'est pas Dieu, là, c'est l'Église. C'est vraiment l'Église, et tout spécialement l'Église locale, qui est une couverture magnifique. Alléluia. Cette couverture, vous êtes bien au chaud là-dessous, n'est-ce pas? Vous êtes bien au chaud là-dessous. Conclusion. Ok, oui, ben voilà. Alors, tu es aimé, chéri, choyé, serré contre le cœur de Dieu et protégé. Les démons ne peuvent pas entrer, ils peuvent juste sortir. S'il y en a, et je vais même te dire une chose, s'il y en a qui doivent sortir, si tu crois ce que je viens partager là, ils vont sortir d'eux-mêmes très rapidement parce qu'ils ne supportent pas ça. Alléluia. Alléluia. Renoncer à des faux enseignements qui créent des peurs, des superstitions, des déséquilibres. De faux enseignements qui donnent au diable plus de puissance qu'il n'en a. Aux démons plus de puissance qu'ils n'en ont. Des faux enseignements qui en réalité méprisent Dieu et qui n'honorent pas Dieu et qui ne lui rendent pas gloire pour sa puissance, pour sa majesté, pour sa sagesse et pour son amour envers toi. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. En grandissant dans la connaissance de Dieu, en grandissant dans l'émerveillement devant la personne de Dieu et dans l'émerveillement de ce qui s'est passé. C'est énorme ce qui s'est passé à Pâques. C'est énorme ce qui s'est passé à Golgotha. En étant émerveillé devant l'œuvre du Christ à la croix, tu affermis ta foi. Tu affermis ta confiance en Christ et tu refuses toute crainte, toute peur et toute superstition. Crois à la parole de Dieu. Croyez à la vérité de l'Évangile. Croyez à la puissance de ce qui s'est passé à Pâques, à Golgotha. Croyez à ce que le Christ a fait pour vous. Crois à ce que le Christ a fait pour toi et à ce qu'il continue de faire par conséquence au quotidien, chaque jour pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la scène. Alors, j'ai une autre bonne nouvelle. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais voilà, on prend du vin. Moi, je ne veux pas prendre de vin. On ne veut pas prendre un litre. Hein, un petit peu. Voilà. Mais Jésus disait de prendre du vin. Alors, on dit, ben, faut mettre du jus de raisin. Ça me saoulait, ça. Alors, finalement, écoutez, par la grâce de Dieu, j'ai résolu le problème. On vous a trouvé un bon vin fruité sans alcool. Alléluia. OK? Hein? C'est une... voilà. Et c'est une excellente cuvée, qui s'appelle La Bonne Nouvelle. Franchement, hein? Voilà. OK. Bon. Le pain et le vin sont des symboles spirituels de ce que Dieu a fait. Crois à la parole de Dieu. Reste bien accroché à la parole de Dieu. Ne crois pas à n'importe quoi, à n'importe quel faux enseignement. Lorsque nous prenons le pain et le vin, nous nous souvenons que le Christ a donné sa vie, sa chair et son sang à la croix sur le Golgotha durant la période de Pâques. Si je prends la scène, cela signifie que je sais que j'ai donné ma vie personnellement à Dieu et que Dieu a donné sa vie personnellement pour moi. et j'ai pris la décision de suivre le Christ en tant que disciple. Alors bien sûr, ce ne sont pas des gens qui mènent une vie parfaite qui prennent la scène. Si quelqu'un ici se croit parfait dans sa vie pratique, qu'il se mette debout. Mais tu es parfait juridiquement devant Dieu. Et à cause du sang de Jésus, tu peux prendre le pain et le vin. Hein? Ce ne sont pas des gens qui mènent une vie parfaite qui prennent la scène. Mais ce sont des disciples du Christ qui marchent avec Dieu, qui sont pardonnés, aimés par Dieu, choyés par Dieu, et qui tout simplement vont de progrès en progrès et de gloire en gloire. Alléluia. Je vous propose de vous mettre debout. Et puis, nous allons partager la scène. Il y a, voilà, on vous met une belle image. Et puis, il y a donc une équipe qui a été préparée pour faire passer. Ne prenez pas la scène parce que le voisin d'à côté la prend. Vous la prenez devant Dieu, en remerciant Dieu pour ce qui s'est passé à Pâques. Et pour ce que le sacrifice de Jésus a provoqué. Pour ce qu'il a provoqué. Cette tuple couverture. Cette formidable protection. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait, une fois pour toutes. Tu as accompli une rédemption éternelle. Et tu as posé sur nous une couverture de gloire, un pardon sensationnel. Tu as souffert et tu as porté tous les péchés et toutes les blessures et toutes les maladies de tous les êtres, de tous les temps et de tous les peuples. Et tu as pris tout ça à la croix, aimant tout le monde et mourant pour tout le monde, pour tous ceux qui voudront bien venir à toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. En prenant ce pain, ce vin, nous nous souvenons de ce que tu as fait. Et nous apprécions. Nous sommes humiliés. Et nous disons que nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ce pain, ce vin. Merci pour ce sacrifice pour toi. Merci, merveilleux Jésus. Merci, merci. Le pain et le vin vont circuler pour remercier Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, pour toi à Golgotha. Je te propose d'applaudir Jésus. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur.